Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, nous sommes partis pour les deux semaines qui viennent, pour une émission véritablement consacrée aux troubadours. Il y a longtemps que nous voulions faire cette émission sur les troubadours. Et nous avons le plaisir ce soir d'accueillir avec nous Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu à Radio Occitanie. Nous savons que tu habites dans l'Aude, à Coursan, près de Narbonne. Et donc, c'est un honneur pour nous de pouvoir consacrer donc cette heure à ce travail exceptionnel, à mon sens, que tu fais depuis de nombreuses années maintenant. Alors, nous allons parler donc de l'ensemble de ce travail sur les troubadours. À mon sens, il y a peu de gens qui ont consacré autant de passion, autant d'énergie et autant de temps à connaître et surtout à cet amour de faire connaître l'œuvre des troubadours. Je crois qu'il faut véritablement, ceux qui sont penchés, c'est René Nelly avant, bien sûr. Il y a eu...
Il y a eu quand même quelques anthologies mémorables.
Oui, il y a eu des anthologies.
Qui ont été faites notamment par Martine Neriker.
Voilà. Mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire on faisait une anthologie. D'ailleurs, plusieurs, je pense à, par exemple, même à des auteurs qui ne sont pas des auteurs véritablement occitans, comme Michel Cousin, qui avait fait une petite anthologie sur les troubadours, et qui a été effectivement un succès de librairie, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une attente du public sur les troubadours. Mais ce que j'ai découvert, puisqu'en définitive je ne connaissais pas tout ça, c'est que là, Gérard Zucchetto a fait un travail qui me semble un travail absolument considérable, dont on va parler. Alors, avant de commencer, on va annoncer que Éric Frage, qui est notre ami occitan...
C'est un vieux copain.
chanteur occitan, qui est un familier, bien sûr, de cette émission, Les Poètes, et qui chante Federico García Lorca en occitan. Alors, il chante en occitan sur les traductions qui ont été faites par Max Rouquette. Et il va se produire au CIRDOC, c'est-à-dire à Béziers, dans cette bibliothèque et ce centre de documentation extraordinaire qu'est le CIRDOC sur la culture et la littérature occitane. Voilà. Alors on va l'écouter tout de suite. Éric Frage étant précisé qu'un éditeur toulousain des éditions RS, dans la collection Poépsie, qui est dirigée par Daniel Faugeras, qui, elle, habite le Gard, vient de publier Le Passeur d'étoiles, qui est une anthologie de l'œuvre complète de Federico García Lorca. Donc, ceci est accessible, c'est une traduction, très belle traduction, de Daniel Faugeras, un petit livre, qui ne coûte d'ailleurs que 15 euros, où il y a tout Lorca en français, tout traduit en français, l'œuvre poétique complète, s'appelle Le Passeur d'étoiles. Et maintenant, on écoute Éric Frage, donc je crois que c'est la guitare.
Las cupos del lago sasco A comença lo plany della chitarra. A comença lo plany della chitarra. Es inutile fare calare. Es fa possibile fare calare. Loro sa san sogno come ploro laigo. Loro sa san sogno come ploro laigo. Come luben ploro sulla neve. Es fa possibile la fare calare. Loro perde causos liuntanos. Loro perde causos liuntanos. Suro caudo d'ausit che boca melias blas. Loro le fleccio sen blanc, l'uvesne sen matin. E lo primiera usselo mortesis luram, e lo primiera usselo mortesis luram. O chitarra, o cor, na frata mor. O chitarra, o cor, na frata mor. Per cinque spado. Per cinque spado, per cinque spado.
Donc la guitare. Eric Frosch qui se produira à Béziers, au Cirdoc. Vous avez toutes ces informations sur notre site les-poètes.fr, à notre rubrique événements hoc, où il y a également toutes les activités du Cirdoc. Hein. On voit vraiment des activités qui sont de grande qualité et quand même très importantes. Voilà, il vous suffit d'aller sur notre site les-poètes.fr pour être en contact évidemment avec le Cirdoc, puisque nous reproduisons toutes les informations du Cirdoc, ce qui est bien normal pour une émission de Radio Occitane.
Et bien sûr.
Alors, Gérard Zucchetto, les troubadours. On va aborder un petit peu l'histoire des troubadours, mais il faut dire que au moment où nous parlons, se déroule le 11e festival Les Troubadours chantent l'art roman, festival qui a commencé le 7 mai, qui va se finir le 25 novembre 2016. Donc un festival très important qui se déroule dans plusieurs villes de la région, donc qui est en cours.
Hein, se déroule dans les sites romans. Hein.
Alors, dans les sites romans, oui, c'est pour ça que je vois Ariège, par exemple, Tourtouze. D'accord, c'est parce qu'il y a un site roman. Alors, il y a, nous sommes au mois de juin, le mois de juin vient de commencer, il y a un séminaire avec l'université de Stanford.
Oui, c'est un séminaire que je fais pour la deuxième fois, j'organise avec l'université de Stanford avec laquelle je travaille depuis 2010. Et l'objet de ce séminaire, c'est assez politique finalement, c'est l'autre France, les troubadours and the politics of cultural Heritage, les politiques d'un héritage culturel. Donc pendant 3 semaines où nous sommes basés à Narbonne, mais où nous allons rayonner en Provence, en Montpellier, Toulouse, en Catalogne, en Barcelone, Gironde, etc., nous allons interroger les acteurs culturels, rencontrer des poètes, puisque c'est quand même important. Là, nous aurons l'occasion d'inviter Roland Pécou, Michel Descor, Franck Bardou, des historiens, des archéologues. Nous allons faire un peu comme faisait Ezra Pound, qui a été l'un des premiers d'ailleurs à faire découvrir les troubadours, c'est-à-dire nous allons cheminer dans des lieux magnifiques. Donc nous allons bien sûr aller à Montségur, Quéribus, Puyvert, et le contact des pierres et le contact de l'histoire.
L'histoire. Oui. Alors, retrouvons là la pérégrination qui était celle des troubadours.
Hein, oui.
Qui allait d'une cour à l'autre.
Voilà, d'une cour à l'autre, oui. Tout en s'amusant bien, hein, oui, puisque les troubadours étaient de joyeux lurons. Oui. Et ils disaient des choses d'ailleurs un peu trop sérieuses pour leur temps et qui passaient au-dessus de la tête des hommes importants de leur temps.
Hein. Oui, ça c'est bon. C'est certainement ce qui se produit encore aujourd'hui.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Alors, mais je crois que maintenant, quand même, les troubadours, il y a une prise de conscience de ce qu'a été l'extraordinaire valeur littéraire, hein, culturelle de cette période-là, ces 2 siècles par lesquels vraiment ça rayonnait quand même sur la littérature européenne.
Hein. Oui, alors d'abord l'importance des troubadours, c'est, je dirais, sans égal dans les mouvements littéraires, hein, puisque après les troubadours, ça a donné naissance au Dolce Stil Nuovo. Il faut savoir que Dante Alighieri, Francesco Petrarca étaient des collectionneurs des chansons de troubadours, des analystes de leurs chansons, et ils se sont fortement imprégnés de leur poésie, de leur façon de faire des canzos, parce que c'est un art complexe que tout le monde n'arrivait pas à pratiquer. Le troubard, c'est à la fois penser musique, penser poésie et penser thème intelligent et ancré dans la société à développer. Donc c'était, ils étaient des auteurs compositeurs, mais à l'époque où ils ont pratiqué cet art dans la langue vulgaire, donc la langue d'oc, l'occitan, hein, bien sûr,
ils ne le font plus en latin. Quoi.
Voilà, donc il y a une rupture avec, une rupture linguistique avec le latin. Ce n'est pas une rupture culturelle, hein, puisque beaucoup de troubadours se sont inspirés de la Bible, se sont inspirés bien sûr de Ovid, l'art d'aimer, ouais, et des antiques en général. Mais ils ont fait œuvre d'apport d'une vision complètement nouvelle. Et cette vision nouvelle s'est reposée sur le sentiment amoureux, la relation entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'homme, la femme et la femme, enfin, la relation amour-amitié, c'est comme ça que dit René Nelly dans l'érotique des troubadours, puisque nous devons à Nelly cet éclaircissement, enfin, puisqu'il faut savoir que pendant longtemps, les troubadours sont restés dans le domaine des études romanes, donc s'intéresser aux troubadours, les philologues, un peu les musicologues, mais pas trop les poètes. Il a fallu attendre vraiment, dans l'époque moderne, Ezra Pound, pour que on prenne conscience que les troubadours étaient d'abord des poètes. Et avec René Nelly, on a pris conscience qu'ils parlaient du sentiment amoureux. Et puis, plus tard, on s'est intéressé, mais c'est tout récent, finalement, à cette partie artistique. C'est ce que nous faisons avec l'université de Stanford. Ça veut dire que on n'aborde pas les troubadours sous l'angle uniquement philologique et musicologique. On suppose que c'est réglé, le problème, mais plutôt sur la performance artistique de ce qu'est le troubard. Donc, on a tout un programme hein, là-dessus qui s'appelle Retroubard, le troubard, Performing Troubard. Et c'est très intéressant parce que on peut voir qu'en revisitant les troubadours, c'est une grande source d'inspiration pour les musiciens, qu'ils soient du domaine de la musique électronique ou du domaine du folk.
Ça, c'est extraordinaire.
Oui. Et puis,
l'autre. C'est une musique qui a été. il y a 1000 ans de ça déjà.
Oui. Hein? Oui, quand on écoute les mélodies de Gaussen Faidi, de Bernard de Ventadour, c'est absolument incroyable parce que ce sont d'abord des mélodistes qui sont vraiment à leur apogée autour de 1250 avec Guiraud Riquet. Le grand musicologue français Jacques Chaillet dit que la vraie renaissance musicale, c'est justement l'avènement de la monodie. Ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'élaboration d'une mélodie qu'avec Guiraud Riquet. Après, quand on passe à Guillaume de Machaut et tout ce qui suit ensuite, on est plutôt dans la facilité, on s'intéresse plus trop à la mélodie, mais davantage à l'harmonie.
Alors on va illustrer ceci par... on va écouter un des premiers morceaux de ces troubadours. Qu'est-ce qu'on va écouter, Gérard?
Alors, je pense que nous avons choisi Gaussen Faidi, c'est tout my Tarzat Munchan.
On l'écoute.
En fait, là, je pense que nous allons écouter Guillaume de Peyteus. C'est le premier troubadour.
Para inveres don soy dore Mas dun sarei obedie En peta o miel e musi Quera venira e Signoracce de meite En gardo lai sporco d'anze Tutta terra su così Si fulcus d'ange
Et romance est en son latin
peccato trova un fine. Hai stacco
Donc
voilà, il s'approche de la fin, il chante cette chanson. Donc effectivement, cette chanson-là de Guillaume de Peyteus, qui est le premier troubadour, hein, c'est le poète le plus important de la première génération, parce que il va inventer les claus et les contre-claus du troubard. Il va donner, comme il dit lui-même, je suis le meilleur dans mon atelier, quoi. Dans quel métier porte la fleur? De ce métier, je porte la fleur. Alors, effectivement, cette musique, cette mélodie qui est attachée à ce texte est en fait un emprunt, c'est un trope qui se trouve dans le jeu de Sainte Agnès, qui est donc un extrait de l'Alléluia. Donc ce n'est pas significatif, effectivement, de ce que je disais tout à l'heure par rapport à une mélodie extrêmement élaborée comme celle de Ventadour de Faidit. Mais l'essentiel est là, c'est-à-dire que il dit qu'il fait ce vers, puisque la chanson s'appelle vers au départ, versus, donc il fait ce vers en roman et non en latin. Donc ce qu'il désigne comme langue louroumans, et c'est la lingua d'oc, tout simplement.
La lingua nostra. Ouais. Alors, la trova, c'est donc ça veut dire l'invention, hein, ce qu'on trouve, hein. Mais c'est un art terriblement raffiné et qui a des règles. Tu en parlais de la Klaus. Qui a des règles quand même qu'il faut connaître et
qu'il faut maîtriser.
Voilà, qui sont. Hein, puisque même je ne sais plus quel troubadour disait moi, je maîtrise bien ça.
Oui, c'est étonnant parce qu'on a toujours des images. Bon, c'est un peu normal, ouais. Complètement déformées. Mais par exemple, le troubadour Bernard Marty. Disait oui, moi des chansons, j'en écris tous les jours, hein, y a pas de problème. J'écris tout le temps des chansons, deux ou trois par an. Donc ça veut dire que ils attachaient une importance capitale à faire une chanson parfaite. D'ailleurs, le mot parfait, comme fin, d'ailleurs, le mot fin, oui, qui est un peu à, plus ou moins oui. emprunté au langage oui. des alchimistes, oui. Ça s'adresse au troubard, le fin troubard, mais aussi à l'amour, le fin amour. Donc tout cela veut dire raffiné, pur, parfait, subtil. René Nelly parlera du jeu, pour Raymond de Miraval, du jeu subtil à l'amour fou, parce que justement il y a dans les chansons de troubadour de la subtilité, de la trouvaille et de la maîtrise. Hein, c'est-à-dire que quand on parle de Giraud de Bourneil à son époque, on dit qu'il est le maître del troubadour. Quand Bernard Marty parle de ses chansons, il dit que ce sont des chansons de maestrio. Ça veut dire que ce sont vraiment, c'est une maîtrise. Donc il y a des règles, évidemment. Il y a trois éléments pour faire une chanson, ça n'a pas changé. Mais à l'époque, étant donné que c'est nouveau, c'est quand même intéressant de le rappeler. La première règle, c'est de trouver un bon sujet. C'est-à-dire une boule au rasou. Des bons mots, des bonnes paroles, mots, et ensuite, bien sûr, le son, sou, qui veut dire à la fois mélodie et à la fois son. Parce qu'il peut y avoir des chansons sans mélodie, mais qui peuvent être extrêmement raffinées au niveau de la recherche phonologique. Par exemple, on connaît tous, on connaît bien cette chanson de Raymond d'Orange, La fleur inverse, qui n'a pas de mélodie, mais qui dit « Arresplan la flousse inverse, pel trinquant ring, se pel tercescal flousse, neuchelze cun la pisque, cotse destrin et trinca. » Il y a dans cette chanson un son bien particulier qui est celui-ci, et c'est ça la preuve de la maîtrise, parce que il faut briller aux yeux des intendants, c'est-à-dire les collègues, qui ne vont pas manquer de dire que celui-ci a copié, l'autre s'est pas chanté, etc. Donc les troubadours, avec leur personnalité, parce qu'ils mettent vraiment tout dans leur art, toute leur personnalité, c'est pour ça qu'on a des histoires fantastiques autour de leur personnalité, pour peser sur la poésie et inventer. Ce sont vraiment des inventeurs. Et ce que nous avons fait dans la trobe, justement dans la trobe, c'est de chanter toutes les chansons de troubadours qui sont attaché à un nom de troubadour et dont nous avons la transcription mélodique sur les manuscrits les chansonniers médiévaux qui sont à la Bibliothèque Nationale à Paris ou à la Bibliothèque Ambrosiana de Milan. Et il y a 248 chansons dont ce travail, nous l'avons fait en coproduction avec des sociétés professionnelles, avec le CIRDOC, la région Languedoc-Roussillon, et ça a donné lieu à l'édition de 22 CD. Mais il y a, dans ces 22 CD, ces 248 chansons. Nous n'avons pas abordé le répertoire des anonymes, des chansons anonymes, 22. Nous le ferons un petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'était déjà important de faire ce travail qui n'avait jamais été fait.
Oui. Alors, ça paraît énorme quand même, hein, 248 chansons. Donc, ces chansons qui étaient notées dans les manuscrits, donc sans indication rythmique.
Oui, mais je dirais, effectivement, on ne notait pas dans les manuscrits l'indication rythmique. Mais je dirais que pour quelqu'un qui connaît la langue occitane, ça vient assez facilement. Pour avoir justement fait intervenir des gens qui connaissent très bien la langue occitane, parce que je ne suis pas le seul chanteur, loin de là, dans cette trobe, pour avoir fait intervenir des gens qui connaissent bien la langue occitane, on s'aperçoit que ça va assez facilement, que le rythme semble s'imposer tout seul. Donc, quand on traduit ça en termes de musique, d'accompagnement instrumental, eh bien, le discours, je dirais, artistique, va se développer assez facilement. Maintenant, on est obligé de l'apprendre, de le théoriser, de l'apprendre, mais c'est vrai que c'était comme ça au Moyen-Âge aussi, hein, c'est-à-dire que le jongleur venait chercher une chanson chez un troubadour, parce que c'était son gagne-pain, et il avait besoin d'une vraie chanson, d'une bonne chanson exceptionnelle, originale, et le troubadour lui apprenait cette chanson. Et puis, il faut savoir aussi qu'on trouvait des chansons qui étaient notées sur des brèves ou des pergamines, les brèves de parchemin, sorte de feuilles volantes pense-bêtes, qui faisaient que l'écriture était vraiment présente. Par exemple, le troubadour Arnaud de Tintignac va dire « Bon, maintenant, ma chanson est terminée, jolie Claire, tu vas me la mettre en écriture et tu n'y changes rien, pas un mot. » Il y avait cette conscience de laisser, dès le XIIe siècle, une trace écrite de l'œuvre. D'ailleurs, c'est « ubra et fabrega », dit le troubadour Arnaud Daniel, ça veut dire « ouvrer » et « fabrega », forger. Hein.
Ça, c'est nouveau.
Et ça, c'est complètement nouveau, parce que jusqu'à présent, on écrivait de la poésie, bien sûr. Ovide écrivait, tous écrivaient de la poésie en latin. Mais en latin et en musique, on n'écrivait que des petites chansons, des tropes, et sur des sujets qui étaient loin d'être des sujets philosophiques, et encore moins de sémantique sociale, on écrivait facilement des choses à danser, hein, ça existait bien, il existait une compagnie qui s'appelait les Compagnons de la Basoche, qui allait dans les églises le jour de la fête des fous, chanter en latin. Bon, il y avait aussi les Carmina Burana, les cantiques Santa Marie, il y avait beaucoup, tout un répertoire profane, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous ont laissé les troubadours en matière, je dirais, de qualité et de profondeur poétique.
Alors on va illustrer ça de nouveau par un extrait. Qu'est-ce qu'on va...
Eh bien cette fois-ci, nous allons écouter Gausen Faidit. Si tout mai tarzat munchan.
Alors, les troubadours, c'est aussi un fait social étonnant de modernité. Hein, c'est un des commentaires que tu fais sur ce regard sur les troubadours. Les grands seigneurs souhaitaient avoir à leur cour les meilleurs des poètes de l'époque pour accroître leur notoriété, bien sûr, et leur influence. Et donc, c'était important. Pour un seigneur d'avoir à sa cour. Il y avait une rivalité dans les cours pour les troubadours.
Il y avait beaucoup de rivalité, bien sûr. Hein. C'est, il y a pas mal dans les biographies de troubadours, on trouve des exemples assez intéressants de rivalité entre troubadours, bien évidemment, entre troubadours et jongleurs aussi. Et puis il y avait des cours où le troubadour était le poète officiel, donc il ne supportait pas la concurrence. Il y avait des troubadours comme Peyre Vidal de Toulouse, qui était un peu le prof de Raymond, quoi. C'est-à-dire qu'il lui apprenait à faire des chansons. Après, il faisait un peu la même chose avec les contes de Barcelone. L'homme le plus fou du monde, hein, qui chantait pour les compagnons de la Bella Foulour, les compagnons de la Belle Folie, et qui était, on dit par exemple, autour de ce personnage, il y a beaucoup de légendes. Et on dit par exemple que quand le comte Raymond est mort, il ne s'est plus coupé les cheveux, ni rasé, il s'est laissé pousser les ongles, et il a fait couper la pointe des oreilles à ses chevaux. Ça veut dire que il a réagi, quelque part, en commettant un acte de folie de plus, puisque lui, il en a fait pas mal quand même, notamment avec la Louve de Plantier ou l'impératrice de Chypre. Enfin bref, c'était l'homme le plus fou du monde, hein, c'est ce que dit le biographe. Mais ça voulait dire que c'était un personnage important. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les enluminures, hein, les miniatures dans les manuscrits qui montrent les troubadours, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas habillés pauvrement, les troubadours. Certaines le sont, des jongleurs, mais un troubadour comme Peyre Vidal, il porte l'hermine, le manteau bleu, le pastel, le chapeau, enfin bref, c'est vraiment incroyable. Et donc ils ont un statut social qui est extrêmement important. On peut dire même que le fait d'être troubadour permet de s'élever dans la société. Donc il y en a qui tournent mal, comme Foulquet de Marseille, qui s'élève tellement qu'il finit par devenir évêque inquisiteur.
Ah oui, oui. Et oui, ça a été même l'évêque de Toulouse.
Voilà, avec femme et enfant, il s'est enfermé au Tournai, il s'est fait lire abbé, puis évêque, et puis inquisiteur.
Oui. Alors, il y a cette vie extravagante de Peyre de Vidal, dont tu as parlé, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un livre Michel Cousem il y a peu de temps, donc on peut, grâce aux romanciers aussi qui ont repris ça, je pense que c'est intéressant de pouvoir avoir la vie comme ça romancée, mais qui est toujours historique. Hein. C'est vrai pour Raymond de Miraval avec le livre de Francis Bourdon également. Et sur Bertrand de Born, il y a Jean-Pierre Thuyat aussi qui a eu un prix d'ailleurs, prix de roman historique sur la vie de Bertrand de Born, qui est une vie aussi absolument extravagante.
Alors,
qui a passé son temps à faire.
Justement, on parlait là des relations entre les troubadours et les seigneurs. Bertrand de Born, on sait qu'avec sa plume, il a tisé la haine entre le roi de France et le roi d'Angleterre, qui était Richard Cœur de Lion.
Il ne pouvait pas supporter qu'ils entendent.
Voilà, donc c'est dans leur statut, leur conférer finalement à la puissance de la plume une influence extrêmement importante.
Oui.
Hein, si on pense par exemple à Guillaume Figuera, qui était un troubadour qui s'est vraiment élevé contre l'Inquisition et qui a dénoncé les exactions de l'Église de Rome dans un Cervantes incroyablement violent, et que l'on a retrouvé ensuite dans le registre d'inquisition de Jacques Fournier.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont joué un rôle politique ?
Bien sûr, oui, bien sûr. Peyre Cardenal a joué un rôle politique, l'air de rien, je dirais. Bertrand de Born aussi, Raymond de Miraval aussi. Raymond de Miraval était aussi très ami avec le comte de Toulouse. Hein. Il se donnait le signal de Audiard. Il a écrit une chanson, justement, pour appeler le comte de Toulouse à la rescousse, le roi d'Aragon, à la rescousse du comte de Toulouse, une chanson qui dit il faut venir, ainsi nous allons recouvrer nos terres. Ouais. Et c'est Belmes Kiauchante Kundei. C'est une chanson qui a un seul objet, c'est d'être une chanson qui va s'immiscer dans la vie politique. Il faut savoir que après cette deuxième génération de la poésie courtoise, des chants d'amour, etc., la troisième génération avec Bernard de Rouvenac, Père et Cardinal, là on est vraiment dans le troubard politique.
Ouais. Parce que je voulais insister là-dessus, je crois que c'est une influence qui, donc, du fait qu'il y a une influence politique, va pouvoir changer aussi la vie de son temps.
Mais je pense que la plus grande influence politique qu'ils ont eue, c'est justement en révolutionnant complètement les rapports entre les gens. Oui. Hein, c'est-à-dire que le troubadour pouvait se permettre de tutoyer le Seigneur et de lui dire ce qu'il avait à lui dire, parce que c'est à une époque où à la fois l'écriture a valeur de symbole, mais la parole est d'or. Elle est vraiment écoutée.
Et c'est eux qui ont porté ça. C'est eux qui ont...
Ils ont inventé le phénomène, en fait. Oui. Ce phénomène qui existait déjà dans l'Antiquité, avec eux, s'est amplifié après tout le mouvement de la poésie antique qui était quand même plutôt fermé. Mais là, le fait d'écrire dans la langue que tout le monde comprend, ça devient autre chose.
Oui, il y a ça aussi. Le choix de la langue qui peut être comprise donc par tous à cette époque-là.
C'est incroyable de penser que l'Occitan devient la langue officielle de la poésie. Quoi. Oui. Dante Alighieri, dans Quale Allodetta, va imiter la chanson de la Lausette de Bernard Ventadour, Pétrarque pareil. On parlait tout à l'heure des vies fabuleuses. Joan de Nostradamus, le frère de Nostradamus, va s'intéresser, lui, aux biographies des troubadours. Stendhal et Rostand vont s'intéresser à la poésie et aussi à la vie des troubadours. Heinrich Heine va flasher sur Mélisende et va inventer la Mélisende à partir d'une chanson de Geoffrey Rudel qui, lui, invente l'amour de loin, etc., etc. Et on ira jusqu'à Louis Aragon qui va embrasser largement le concept en disant que l'honneur de sa vie lui a été rendu par la poésie d'oc, l'ancienne poésie d'oc. Gérard Gouiran dit les troubadours, c'est opni, objet poétique non identifié. Et je suis assez d'accord avec lui, parce que finalement, on s'aperçoit que, quel que soit le thème choisi, ils vont creuser et fabriquer une chanson, mais vraiment parfaite. C'est pour ça que ça demande du temps. Hein. Et le fait de la parfaire, en plus, avec la musique, c'est incroyable, quoi. Ça veut dire on est dans le monde de la chanson parfaite. Alors, bon, c'est pas exceptionnel. C'était exceptionnel à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce que font les auteurs-compositeurs, quoi.
Mais est-ce que il y a... Oui, c'est comparable, ça. Il n'y a pas quand même une profondeur, ne serait-ce que sur le thème, quand même plus...
Une chanson a toujours son contexte. À l'époque des troubadours, on ne peut pas trop comparer. Il y a toujours trois niveaux de lecture.
Il faut le replacer en époque, ce que tu veux dire.
Ouais, voilà. Ouais. À cette époque-là, il y a trois niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture pour les intendants, les collègues. Donc là, on peut pas se moquer d'eux. Il faut trouver des mots précieux, etc. Il y a le niveau de lecture de l'amour. Ça s'adresse à quelqu'un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des tornades à la fin de chaque chanson. Ces envois vont s'adresser à un seigneur, à une dame, etc. Ça, c'est plutôt fermé. Ça veut dire, c'est le message est plus ou moins caché. Le tourbarclus, c'est ça, à la fin. Et puis, il y a le premier niveau, celui qui fait plaisir à tout le monde et où tout le monde pense avoir compris ce dont il s'agit. Et ça, c'est très complexe, parce que si on prend cette chanson de la fleur inverse de Rainbow d'Orange, par exemple, on peut la lire vraiment à deux niveaux de lecture qui n'ont rien à voir. Un niveau qui est vraiment très très profond, très compliqué sur la forme, le choix de la métrique, les désordres phonologiques, etc. Et puis un niveau carrément grivois, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, hein. C'est comme l'histoire du fleuve Dante Alighieri, le fleuve dans lequel au bord peuvent se baigner les agneaux et au milieu les éléphants, quoi. Donc c'est un fleuve poétique, le Troubar, qui satisfait tout le monde finalement.
Dante Alighieri, quand il parlait de Bertrand de Born, il avait mis l'enfer.
Ah, lui, il l'envoie direct dans l'enfer, la tête portée à bout de bras. Donc, et ce qui est très étonnant, c'est qu'il envoie Foulquet de Marseille au paradis. Je pense qu'il connaissait mal Foulquet de Marseille. Et puis quand même, il a beaucoup d'estime pour Arnaud Daniel, hein, qu'il signifie de « miglior fabro del parlar materno ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, le meilleur forgeron. Et puis aussi le maître Giraud de Bourneil, le poète de la rectitude, période d'Alverne. Il a vraiment étudié, on voit dans la comédie, hein, et même dans les autres œuvres de Pétrarque, surtout Pétrarque et Dante, qu'ils ont vraiment étudié, quoi.
Alors, on va écouter maintenant, toujours, qu'est-ce qu'on va écouter, Gérard?
Alors, je pense que maintenant, nous allons écouter, bien justement, Lo Mestre del Troubadours, hein, qui est Giraud de Bourneil, Reis Glorius. Effectivement, c'est quand nous avons besoin d'une petite échelle pour s'élever justement au rang des poètes. C'est Sana Hurtadoros qui chante une chanson séfarade que nous avons enregistrée en Irlande en même temps que nous enregistrions justement la chanson de Giraud de Bourneil dont je parlais, Reis Glorius.
Set up.
Une interprétation, ce type d'interprétation de chansons de troubadour qui n'a rien à voir avec le travail que nous avons fait dans la trobe, qui reste finalement un travail assez classique. Ce travail-là est un petit peu l'antithèse, c'est-à-dire que nous travaillons sur les rythmes, sur un engagement volontiers, comme disait Bernard Ventadour, chanter cette chanson volontiers. Donc, c'est ce que nous faisons avec l'Université de Stanford, comme je le disais. Et nous écouterons une autre chanson, d'ailleurs, qui fait appel aussi à l'utilisation du cristal bâché et de la guitare électrique, tout à l'heure. Donc.
Qui est un nouveau, donc, dans les nouvelles éditions, hein, et qui sera présenté au festival. C'est ça.
Oui, voilà. Donc, la trobe, ça va être aussi un livre. J'avais écrit en 1996 Terre des troubadours. Effectivement, là, donc, j'ai travaillé depuis. J'ai augmenté cette édition à la lumière de tout ce que j'ai fait avec les enregistrements, dont nous aurons une anthologie commentée. C'est le même principe, mais largement augmentée, quoi.
Alors ça, c'est à venir, donc une édition en préparation qui va
s'inscrire dans les éditions Trobavox.
Alors qui vont s'inscrire dans les éditions que tu diriges, donc c'est les éditions Trobavox, hein.
Oui, qui édite d'ailleurs pas que les troubadours, hein.
Oui,
les troubadours et les poètes contemporains. Hein.
Donc qui édite, il y a les chemins de troubadours, les troubadours Guérori qui est de Narbonne. Il y a les contes et légendes des troubadours.
Alors ça, c'est Camines et Troubards, la collection.
Camines et Troubards. Donc,
et puis il y a une.
Et puis il y a une.
Une collection donc, qui est dirigée par Franck Bardou.
Voilà, dirigée par notre ami Franck Bardou, qui est là où on va trouver d'abord Franck Bardou lui-même, donc c'est-à-dire des poètes qui sont des continuateurs dans une certaine.
Oui, ce sont des poètes. Ce sont des poètes occitans
du troubadour.
On peut le dire comme ça. Oui. Ce sont des poètes occitans qui sont vraiment engagés dans l'écriture, dans une recherche particulière. Donc moi, je pense à ce que nous venons d'éditer. Outre le fait que nous avons édité, bien sûr, Franck Bardou, il y a également Jaume Privat, qui est très peu édité. Il a été édité il y a longtemps. Et le prochain que nous allons éditer, là, cette année, c'est Roland Pécou.
Roland Pécou.
Voilà. Nous avons là trois poètes de caractères différents, mais qui s'inscrivent vraiment dans une veine de recherche sur l'écriture.
Et qui sont des poètes vivants. Dans la contemporanéité la plus entière, et qui va se faire un peu dans la sans discontinue par rapport à ceux dont on a parlé tout à l'heure. Hein,
tout à fait. Pour moi, c'est complètement logique d'avoir... À la suite des troubadours, les poètes occitans contemporains que je mets également en musique.
Alors je voudrais dire que moi j'étais très impressionné du travail qui a été réalisé à tous les niveaux, hein, niveau de l'édition, niveau des CD, etc. J'ai trouvé ça vraiment assez étonnant. et qu'il faut en parler. Alors, la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de parler, bien entendu, d'abord de nos poètes contemporains, puisque je crois qu'on n'en parle quand même pas assez, et donc de nouveau, de faire un tour d'horizon sur cet héritage aussi des troubadours. Là, on a parlé de la trouba, on va parler maintenant, en définitive, la semaine prochaine, on va parler aussi des héritiers.
Hein, bah, retroubard, loutroubard.
Voilà. Alors, n'oubliez pas, donc tout ceci, ce sont les éditions Trobavox. Hein. Vous trouverez le catalogue de ces éditions.
À la fois sur Internet.
Sur Internet.
Et puis pour tout ce qui est, bien sûr, on peut commander à la FNAC ou
dans n'importe quelle librairie.
Voilà. C'est référencé, quoi.
Voilà. Et nous mettrons ça, bien entendu, sur notre site laitier-poète.fr. Et puis, vous avez jusqu'au 25 novembre donc, pour aller à ce festival. Les troubadours chantent l'art roman. Les plus proches événements, je crois que c'est...
C'est le 11 c'est le juin, 11, donc à Capendu, dans l'Aude, et en même temps dans l'Aude. Tourtouze, dans Marie.
Voilà. Voilà. Et vous trouverez également sur le site à la fois lespoètes.fr et sur le
site du festival.
Du festival, le catalogue complet de toutes les manifestations. Donc des troubadours chantent l'art roman. Et on va terminer, Gérard, sur quoi ?
Et c'est une chanson de Peyre Vidal, dont revisité avec la guitare électrique, le cristal mâché, le hang et autres instruments.
Voilà, donc la modernité toujours du troubadour Peyre Vidal.
Voilà. On y va. Perché un mende sforza. E sel che lunga tendenza plasma fa i gran faisù che era nartus librettù una violur prevenza e teu per lunga spera hai conquista grandu su rubais che forza d'amor me fezza mirum sembra caros lundegna utreia. Fis faienza sui embuna sus peisu che il maltrace metu men pru poi sluvesta angen comensa e poi ran sen conorta e mi tuz l'autra madu cap sovres forsi un labu tracce nel fregio focla e taiga d'ussa e ma.
Voilà, merci beaucoup Gérard Zucchetto. Je disais à l'instant que les éditions Trobavox
vraiment m'avait totalement enthousiasmé. J'ai passé l'après-midi à lire et à relire ce que j'avais déjà lu là de ces éditions dont nous parlerons la semaine prochaine.
Bien entendu. Voilà. Ça me fait plaisir puisque c'est pas évident d'éditer de la poésie d'abord.
Oui.
Et puis alors, l'originalité, c'est que j'ai demandé à des poètes dessinateurs.
Alors voilà, je vais venir. Voilà. Il y a une présentation. D'abord, ça se présente comme un album. Un petit peu de format bande dessinée, c'est-à-dire un album cartonné, costaud, hein, et puis terriblement bien illustré. J'étais étonné de voir des poèmes de Franck Bardou, par exemple, avec ses illustrations.
J'ai eu l'occasion dans le passé et de son vivant de travailler beaucoup avec Max Rouquette que j'ai mis en musique et lui il dessinait beaucoup et c'est ce qui m'a donné l'idée, c'est Max Rouquette en fait qui m'avait donné cette idée. Et j'ai trouvé intéressant de demander au poète puisque vous faites des dessins quand vous écrivez.
Oui.
Mettons ça en forme, de façon à les regrouper et à s'en servir pour illustrer vos poésies.
J'ai découvert Franck Bardou, par exemple, l'illustration de Franck Bardou.
Ah oui, c'est très intéressant.
Très intéressant.
Ouais. Celle de Jaume Privat, là on est dans vraiment une création artistique, graphique, assez exceptionnelle. Hein.
Eh bien, nous aurons le plaisir d'en parler de nouveau avec toi, Gérard, la semaine prochaine. On te dit un grand merci, plein de merci.
Ah mais un grand plaisir.
À Dijos.
Souviens-toi de Urouz, et c'est à qui même vous a offert.
Merci. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitane et nous vous disons à la semaine prochaine.